France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La charrette fantastique, c'est le titre assez improbable, mais somme toute évocateur, de l'émission que vous allez entendre dans un instant. Le deuxième volet d'une série de 5 émissions que les chemins de la connaissance ont donc consacré en 1983 à la traditionnelle charrette. L'antique véhicule de nos campagnes est beaucoup plus qu'un vestige de la vie rurale. C'est une espèce d'archétype qui évoque symboliquement des passages entre les mondes ou entre des niveaux de réalité. Dans cette émission, c'est la voix du folkloriste Gérard Leroy qui nous raconte les mythologies de la mort en Bretagne. La venue de la charrette est annonciatrice d'épouvante. C'est le spectre de l'Ankou qui surgit pour annoncer le passage de la vie au trépas.
Il y a une telle uniformité de teinte dans le paysage breton, sur ses landes de bruyère et ses chemins aux vieux calvaires, que ce paysage semble lié avec la mort. À cause de l'indécision de la lumière, de la fréquence des brouillards, il y a en Bretagne une complicité du climat avec le paysage. On imagine facilement, à suivre de vieux chemins abandonnés, la rencontre au crépuscule. L'apparition d'une forme indécise. Elle hante l'imaginaire de Bretagne, cette charrette fantôme que les paysans des siècles passés ont baptisée Kaharanankou, le char de l'Ankou, ou la charrette de la mort.
Hier, Gérard Leroy, une cahotante charrette conduite par un personnage sans tête s'avançait vers nous. L'Ankou est donc le nom breton de la mort.
C'est le nom qui désigne la mort en Bretagne. Dans le légendaire breton, comme dans le langage des Bretons, la mort, le mot même de mort, est masculin. L'Ankou serait une divinité masculine de la mort, qui aurait été plus ou moins christianisée d'ailleurs. On peut dire que chaque paroisse de Bretagne possède son Ankou particulier. Il est sculpté dans la pierre, dans le bois. C'est un squelette portant comme emblème la faux ou la lance et qui orne l'autel des morts de chaque petite église de campagne.
Mais pourquoi l'Ankou est-il conducteur de charrette?
Eh bien, l'Ankou va utiliser la charrette fantôme pour le transport des âmes des défunts. Ananaon, comme on dit en breton, c'est-à-dire les âmes. Il va récolter sa charge d'âme. Mais il a deux rôles. Et son rôle principal, c'est d'abord avertir du trépas. Nous avons là la notion d'intersigne, c'est-à-dire qu'ici, la vision d'un char annonce la mort à celui qu'il voit ou pour quelqu'un de ses proches.
Et sous quelle apparence l'Ankou se présente-t-il?
Il est terrifiant, ce chartier des âmes. Terrifiant. Le plus souvent, c'est un squelette dressé debout à l'avant du char, et qui écarte avec violence ceux qui, par inadvertance, se trouvent sur son passage. Il a un fouet de fer à la main, et il crie « Gare, la va du limonier !» C'est-à-dire « Faites place, écartez-vous, laissez la place au cheval. » Le limonier étant le cheval. Quelquefois, plusieurs squelettes conduisent la charrette. Il y a une image encore plus terrifiante. C'est celle de ce squelette, dont la tête tourne sur elle-même, balayant de ses orbites vides le territoire alentour, de façon à se diriger sans retard vers le lit de l'agonisant. Parfois aussi, le conducteur s'affuble d'une houppelande, du feutre à large bord du paysan breton. Mais il arrive qu'à cette silhouette, il manque aussi la tête.
Et j'ai entendu dire que cette tête manquante pouvait être remplacée par n'importe quelle tête.
Dans les récits de Cambry, les plus anciens, ceux d'Émile Souvestre également, qui concernent le char de la mort, ceux qui voient venir ce conducteur sans tête ont la vision d'une tête prenant place soudainement sur les épaules de l'encou. Et c'est toujours celle d'une personne connue qui va mourir ou qui est à l'instant même de la mort.
Ce conducteur a donc tout pour effrayer. Mais il faudrait s'interroger sur l'apparence de la charrette elle-même. Comment se présente-t-elle? Est-elle aussi effrayante que son conducteur?
Alors la charrette, on peut dire, elle est aussi terrifiante. Les chevaux, la charrette ne dépareillent pas du conducteur.
Dans la cour, à deux pas de moi, je vis un homme qui allait et venait, les bras derrière le dos, du pas nonchalant de quelqu'un qui attend et qui se promène pour abréger l'ennui de l'attente. Il était grand, maigre, le chef ombragé d'un chapeau large. Au milieu de la cour, près du puits, stationnait un char de structure grossière, attelé de deux chevaux étiques, dont la crinière était si longue qu'elle traînait jusqu'à terre et s'en mêlait dans leurs pieds de devant. Les montants étaient à claire-voie. Entre les barreaux pendaient au dehors des jambes, des bras, voire des têtes humaines jaunes, grimaçantes, hideuses.
Eh bien, on peut dire que le char de la mort, au fond, c'est une charrette ordinaire, comme celle qu'utilisent les cultivateurs, enfin qu'utilisaient les cultivateurs, mais elle est un peu plus délabrée, comme si elle avait traversé les siècles. Son cheminement n'est pas comptable du temps des hommes, il n'est pas comptable non plus du temps ordinaire. Cette charrette, elle se présente souvent recouverte d'un linceul ou d'un drap blanc, qui en quelque sorte cache son contenu. Alors le blanc du linceul et le noir des chevaux valorisent l'aspect funèbre.
C'était un soir, en juin, dans le temps qu'on laisse les chevaux dehors toute la nuit. Un jeune homme, du village de Trezelon, était allé conduire les siens au pré. Comme ils en revenaient en sifflant dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui, par le chemin, une charrette, dont l'essieu mal graissé faisait « Ouic, ouic ». Il ne douta pas que ce fût Carrigel Anankou. « À la bonne heure, se dit-il, je vais donc voir enfin de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. » Et il escalada le fossé où il se cacha dans une touffe de noisetiers. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par trois chevaux blancs attelés en flèche. Deux hommes l'accompagnaient, tous deux vêtus de noir et coiffés de feutres au large bord. L'un d'eux conduisait par la bride le cheval de tête. L'autre se tenait debout, à l'avant du char. Comme le char arrivait en face de la touffe de noisetiers où se dissimulait notre jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte.
La charrette de l'encou se reconnaît donc à son essieu qui grince.
Ah, l'essieu qui grince. Vous avez là un trait commun à toutes les descriptions, à toutes les légendes. Regardez par exemple le très beau roman de Selma Lagerlöf, Le Chartier de la Mort. Eh bien, sans cesse, nous avons cette roue qui grince, qui couine, comme on dit. Elle couine comme si elle n'était pas graissée. Je crois que ce bruit de la roue a le plus effrayé les Bretons qui ont eu la vision du véhicule fantastique. D'autant que parfois, si le char, lui, est invisible, on entend néanmoins le grincement de l'essieu. Et cela n'existe pas seulement en Bretagne. Par exemple, en Berry, nous avons quelques légendes qui s'apparentent à celles du char de la mort.
Une fois, un homme revenait de Nevers à Montigny-aux-Amognes par la route de Saint-Saulge, qui, en ce temps-là, était encore un vieux chemin entre Saint-Jean et Montigny. Il était 11h30 du soir. L'homme entendit tout à coup comme un roulement de voiture. Il écouta en continuant à marcher. « Tant mieux, se dit-il, si on ne m'aide pas à faire le chemin, ça me tiendra toujours compagnie. » Mais il s'aperçut bientôt que ce roulement allait vite, ce qui n'était pas ordinaire dans ce chemin défoncé où ne passaient que de lourdes charrettes. Il était au lieu appelé la mare quand il vit passer près de lui deux gros loups de front, comme s'ils étaient attelés. Il entendait toujours le bruit de la charrette, comme si les loups l'avaient traîné. Mais il ne la vit pas. Il vit seulement deux chandelles qui suivaient les loups.
Quand on entend passer la charretée, comme disent les paysans, ou la grande chairée, on dit qu'elle fait le bruit d'une charrette de paille marchant lentement. On entend dire aussi quelquefois « le bruit que fait la rousse, c'est comme le cri du crapaud ». Ou bien on rapporte, on lit, que ce bruit évoque pour le mourant, et ses proches d'ailleurs, le sifflement d'une vipère.
Sifflement d'une vipère, et quoi d'autre encore, car je sais qu'il y a plus terrifiant.
Quoi d'autre encore? Ceci, bien plus terrifiant.
Lorsque l'Ankou se met en route pour sa tournée, sa charrette est pleine de pierres, afin de rouler plus lourdement et de faire plus de bruit. Arrivé près de la maison où se trouve le moribond qu'il doit cueillir, il décharge brusquement sa charrette pour faire place à son nouveau lest. De là ce fracas de pierrailles que l'on entend si souvent dans les logis où l'on veille un mourant, juste à l'instant où celui-ci rend le dernier soupir.
Gérard Leroy en raconte aussi qu'il y a des signes silencieux du passage de cette charrette fantôme.
Des signes silencieux?
Des traces, par exemple.
Des traces sur le sol. Des signes visibles. Par exemple, il y a l'ornière sur le chemin. Et puis aussi, sur le calvaire de Tréguier, la trace du moyeu se distingue le matin après le passage de l'Ankou sur le piédestal en granit du calvaire. Et curieusement, on ne voit que la trace d'une roue, comme si la charrette était restée suspendue d'un seul côté.
En somme, comme si le char ne touchait terre que d'un côté. Alors on peut se demander si ce char ne s'élève pas dans le ciel. Et je crois qu'il existe toute une série de légendes où ce char de l'Ankou est aérien.
Vous rappelez là justement une apparition céleste du char de l'Ankou. Elle est donnée par Abasque en 1832. Le char de la mort en Ille-et-Vilaine traverse les airs et il est traîné par des oiseaux funèbres. Mais alors cela fait référence justement à la constellation du Grand Chariot, qu'on appelle aussi la Grande Ourse, et qui justement dans le pays toulousain est appelé le char des âmes, Lucar de los Armos. Et alors, je me rappelle aussi d'une apparition du char de la mort où celui-ci est traîné par une petite ours, et le conducteur, paradoxalement, c'est une ours plus grande.
Des figures célestes se rapportant à des constellations. Il est question aussi d'une autre charrette aérienne. C'est le fameux char moulinoir. On le trouve dans le Trécorrois. Char moulinoir, son nom est parlant. Moulinoir évoque le moulin. La roue de la charrette suggère l'image d'une meule, d'un broyage. Broyage de la graine humaine, peut-être, l'humanité ici serait moulue. La charrette de l'Ankou serait le moulin broyant le destin des hommes. Certes, l'image est terrible, mais elle est ambivalente. Ce n'est pas seulement qu'un moulin broyant l'humanité. Il y a quelques instants, la mention de la grande et de la petite ours nous donnait une précieuse indication. Ces deux constellations, dans leur place céleste, constituent le moyeu de la roue du ciel. Or le ciel nocturne, par sa rotation, dans certaines traditions, a également été comparé à un moulin. Alors nous pourrions dire que parcourir en sens inverse le chemin du char de l'Ankou, remonter sa trace, c'est retrouver le ciel et retrouver son moyeu, le centre fixe du ciel, là où brille l'étoile polaire, invariable milieu de l'univers. La trace du char de la mort, en somme, c'est le sillage du temps. Au Moyen-Âge, la mort et le temps étaient un seul et même personnage, et cela est demeuré au niveau des allégories. L'un et l'autre arborent la faux et le sablier comme emblème. Or, suivre en sens inverse les traces du char de la mort pourrait signifier aller à rebours du temps. Et nous ne sommes pas loin ici de certains concepts énoncés par les doctrines initiatiques et tout particulièrement par la doctrine alchimique. À savoir qu'il faut sortir du temps et que celui qui inverse le cours du temps et le cours de la mort, celui-là obtient l'immortalité. Toutes ces images sinistres de l'Ankou, squelette, personnage vêtu de noir, charrette branlante, donc usée par des siècles de labeur, ou peut-être par le labeur des siècles. Toutes ces images, donc, dans le domaine des alchimistes, renvoient à la figure de Saturne. Saturne est aussi Chronos, le temps dévorant. Et l'Ankou, c'est Saturne. Et c'est aussi la condition humaine vouée à la décrépitude et à la mort. Alchimiquement, Saturne est également figuré par le monde minéral, la pierre. Cette pierre représentant le poids du monde, mais aussi l'âge qui pèse, le fardeau des ans. Alors on ne s'étonnera pas de voir parfois l'Ankou décharger avec fracas sa terrible charrette pleine de pierres. Et il n'est pas jusqu'au symbolisme de l'essieu qui grince qui ne trouve une explication en rapport avec l'alchimie. Poétiquement, l'essieu du monde, c'est son axe. Mais tout être est symboliquement porteur d'un axe semblable, de par cette relation entre le macrocosme et le microcosme. Que cet axe grince et casse pourrait bien signifier que l'essieu est ce qui cohère la force vitale d'un être, ce qui maintient sa motricité, autrement dit sa vitalité. Que cet essieu casse, et voilà que c'en est fait de la cohésion vitale d'un être. Mais celui qui, par une ascèse alchimique, une ascèse initiatique, maintient ferme l'axe, l'essieu de son être, celui-là finit par voir la trace céleste du char de l'Ankou. Il voit que le char moulinoir est la roue de l'univers, et il voit que son propre essieu ne fait qu'un avec l'essieu du monde. Alors, la mort pour lui se change en vie, les ténèbres se changent en lumière, la charrette branlante de l'Ankou Saturne cède place au char lumineux d'Apollon, le dieu éternellement jeune. Et l'alchimiste est enlevé au ciel dans un char de feu, tout comme le prophète Élie. Et précisément, l'alchimie a repris cette figure du prophète Élie et en fait l'alchimiste parfait, Élie artiste. Alors Gérard Leroy, après ce passage grinçant des charrettes sinistres, existe-t-il dans le folklore une charrette lumineuse?
Vous avez évoqué l'alchimie et je pensais à ces roues de feu des alchimistes. En effet, j'ai retrouvé la trace d'une tradition qui existait dans un village vosgien, à Pouxeux, une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à la fin du siècle dernier. Elle est relatée par Arnold van Gennep, folkloriste réputé, et j'ai pu retrouver certains éléments beaucoup plus locaux concernant cette tradition. Au fond, c'est la coutume des roses enflammées, celle qu'on faisait dévaler des collines au moment des solstices.
Et je crois que ce sont des roues de charrette.
Ce sont les roues des charrettes qui sont démontées, qu'on entoure de grands bourrelets de paille et on les allume au moment du solstice. Elles dévalent les pentes des collines dans une course folle.
Image fantastique.
Image du soleil. Et elles vont se perdre dans la rivière. Alors c'est une tradition qui est très répandue justement dans la vallée de la Moselle. On peut dire d'Épinal jusqu'à Koblenz en Allemagne. Même plus haut, on trouve la trace de ces roues en Westphalie, dans Basse-Saxe, et notamment en période pascale.
Et ce char de Pouxeux ?
Alors le char de Pouxeux, lui, c'est le soir du carnaval, et aussi dans la nuit du solstice d'été, c'est-à-dire après le jour le plus long, que les jeunes gens du village l'entraînaient dans une course éperdue. Le char de Pouxeux, c'est une charrette à deux roues. Elle est assez petite, elle n'existe plus, bien entendu. J'ai essayé d'en retrouver la trace physique, c'est absolument impossible. Eh bien, quand on avait mis le feu à ces bourrelets de paille, c'était un véritable serpent de feu qui traversait le village et qui allait même dans les champs environnants. Parce que pour le paysan local, le feu porté dans les champs est signe de fécondité pour la terre.
En quelque sorte, ces étincelles vont féconder la terre.
C'est cela.
Et après la cérémonie, que devient le char de Pouxeux ?
Alors, c'est après la fête que, curieusement, les éléments du char
sont démontés.
Oui. Et ils sont suspendus pour le reste de l'année à un poirier de belle taille.
Donc ils ne touchent plus terre.
Voilà. Ne touchant plus terre, ces éléments participent du sacré. C'est tout à fait comme ces quatre enfants sur le tableau de Lenin
que nous évoquions hier.
Ces enfants qui, dans le ravissement des sons, appartiennent déjà à un autre monde. Un monde qui n'est soumis ni au temps, ni à la mort. De même, les pièces de ce char, suspendues parmi les fruits, semblent dire leur appartenance à l'éternelle fécondité de la vie.
Depuis les temps les plus reculés, et particulièrement dans ces vallées charmantes du nord de l'Europe, où coulent les fraîches rivières, les paysans font des vallées de la montagne des roues de feu. Le spectacle est tout à fait grandiose. La préparation de ces roues demande une journée entière. Le matin de la Saint-Jean, alors que la montagne est encore drapée de brume, un long cortège s'ébranle de la place du village. Une musique vient en tête, bruyante à souhait. De gros chars la suivent, tirés par de forts chevaux. On monte sur les hauteurs 6 énormes roues pesant chacune près de 100 kilos. Une voiture qui vient en queue est remplie de foin sec et odorant. À mesure que le cortège monte, des paysans accourus de partout l'augmentent. Et c'est dans une rumeur joyeuse que l'on parvient au sommet des montagnes. Là-haut, les roues et le foin sont déchargés. Les roues sont fixées à égale distance l'une de l'autre sur un axe, puis soigneusement garnies de foin que l'on bourre entre les rayons. Le travail se fait minutieusement. Les heures passent rapides, aussi n'est-ce qu'au crépuscule que tout est prêt. Alors chacun descend les pentes et regagne le bourg. Lorsque la nuit est venue, bien sombre malgré les étoiles qui luisent au ciel, le spectacle est féerique. Sur la crête, quelques villageois gardent les roues apprêtées. À un certain moment, ils enflamment le foin qui les garnit et ils les précipitent au flanc de la montagne sur un chemin creusé à cet effet. Les roues dévalent les pentes, roulent toujours plus vite vers la plaine, sautant les talus, défonçant les haies, bousculant tout sur leur passage. C'est une vraie fournaise en marche, étincelante, fulgurante. Elle aboutit enfin au lit de la rivière, où s'éteignent les lueurs rougeoyantes avec de longs crépitements. La vision est prodigieuse, imprévue, et laisse dans l'esprit un souvenir ineffaçable. C'est un véritable hymne à la nature, aux moissons prochaines, à la chaude saison durant laquelle les hommes peuvent vivre heureux. C'est aussi un hymne direct à la force qui fait croître toute chose sur notre terre, au soleil sans lequel nous n'existerions pas. Les roues enflammées de la Saint-Jean peuvent être considérées comme une image de l'éternel recommencement, de l'éternelle renaissance de la vie, du rebondissement de toutes les choses.
C'était La Charrette fantastique dans Les chemins de la connaissance par Paul-Georges Sansonetti avec Gérard Leroy. Cette émission était le deuxième épisode d'une série de 5. Première diffusion sur France Culture le 21 juin 1983. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.